ouvrir le livre. OK, donc ce matin, on va commencer. On avait, la semaine passée, on avait vu une introduction à l'étude approfondie du tabernacle que l'on trouve entre Exode 25 et Exode 40 dans le livre de l'Exode. Ce matin, on va regarder Exode 25, versets 1 à 9. On va les lire. Excusez-moi, j'ai oublié d'emmener ma feuille. On va aller dans Exode 25, versets 1 à 9. Exode 25. Alors, dans Exode 25, c'est comme le début de l'histoire du tabernacle. Alors, on va lire les 9 premiers versets. Ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder qu'est-ce que le Seigneur lui-même demandait à Moïse de rassembler des matériaux pour construire le tabernacle. Alors, ça dit... L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. » Ou, des fois, certaines versions peuvent dire du bronze, mais l'airain, je vous expliquerai tout à l'heure la différence. Et après ça, il disait des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx, et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Voyez-vous, là, le fait de l'avoir vu un petit peu tantôt, ça donne quand même une image où ces choses-là allaient. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Verset 9, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alors, l'Éternel ne dit pas, construis-moi quelque chose puis arrange-toi ton bout. Il lui donne des directives, un plan précis, et c'est ce fameux plan précis-là qui va venir donner tout le symbolisme du tabernacle en relation avec la personne de Jésus-Christ. Je vous avais mentionné la semaine dernière, et je vais le rementionner cette semaine parce que je trouve que c'est important. La première fois que j'ai fait une étude sur le tabernacle, j'avais été tenté de prendre les cassettes, pas les cassettes, mais les diapositives, et de faire une étude à partir des images et d'essayer d'expliquer en fonction de ça. Et à un moment donné, j'ai dit, non, je ne ferai pas ça de cette façon-là. Ce que je vais faire, je vais prendre les Écritures elles-mêmes, puis je vais suivre le texte. Au lieu d'y aller thématiquement, j'ai choisi d'y aller en suivant le texte des Écritures. Et je me suis rendu compte en faisant ça que l'Éternel a beaucoup de sagesse et d'intelligence dans ce fait-là. Pourquoi? Dans la première description du tabernacle, autrement dit, le chapitre 25 à 31, c'est l'Éternel est en train de dire à Moïse, voici ce qu'il faut que tu rassembles pour le construire, voici les éléments et voici comment tu dois le construire. Ça, c'est le chapitre 25 à 31. Dans le chapitre 32 à 34, on a le peuple d'Israël que lorsque Moïse est sur la montagne pour recevoir les ordres de Dieu, tombe dans l'idolâtrie la plus basse, et quand Moïse descend, il y trouve en train d'adorer le veau d'or, et il se fâche, il casse les tables de la loi. Et là, il remonte, et l'Éternel lui dit, tu vas construire ça selon la méthode que je t'ai dit. Dans la méthode, dans le chapitre 35 à 40, on a l'exécution. Autrement dit, 25 à 31, c'est l'Éternel qui dit, voici le plan, voici ce que ça va te prendre pour le faire, comment tu vas le faire. Et à partir du verset 35, aller jusqu'au verset, c'est-à-dire chapitre 35, aller jusqu'au chapitre 40, là, on voit le peuple d'Israël avec en tête Moïse, Betsalaël et Oholiba, là, qui vont construire ça avec les femmes, qui vont faire différentes choses, vont faire les tapis, vont faire différentes choses. Et à partir du chapitre 35 à 40, c'est vraiment l'exécution du plan. Et la chose intéressante que je me suis rendu compte en l'étudiant, c'est que dans le chapitre 25, aller jusqu'à 31, l'ordre commence par en arrière du tabernacle, commence par l'or, et il s'en va vers l'homme. Et quand on voit la construction par l'homme, qui à partir du chapitre 35 aller jusqu'au chapitre 40, on voit l'homme qui va vers Dieu. Et c'est tellement intelligent, là, c'est comme... Quand tu te rends compte de ça, tu dis, le Seigneur n'a pas fait ça comme ça pour rien. Et on voit dans la question que ça va du Saint des Saints vers l'homme. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir une intelligence, un quotient intellectuel de 200 pour comprendre que l'Éternel est en train de nous montrer que le salut, c'est quelque chose de souverain. C'est son initiative qui va vers l'homme. Et dans la construction, c'est l'inverse. L'homme qui va vers Dieu. Moi, quand j'ai découvert ça, j'étais renversé. J'ai dit, jamais étudier un sujet biblique en essayant de le faire thématiquement, tu peux arriver à faire quelque chose d'intelligent, mais tu ne le feras jamais plus intelligent que le Seigneur lui-même. Pas pour rien qu'il a fait ça comme ça. Il y a une raison, et quand on le découvre, on se dit, ah, la sagesse de Dieu dans tout ce qu'il fait. Et on peut voir d'équivalent de ça dans deux livres de la Bible. Dans Éphésiens, on voit le Seigneur qui vient vers l'homme, en gros, là. Et dans Romains, on voit l'homme qui va vers le Seigneur. Alors, c'est comme des choses très intelligentes. On va regarder quelques caractéristiques de l'offrande. L'offrande que l'Éternel demandait à Moïse, il demandait de rassembler du matériel dans le but de construire le tabernacle. C'était une offrande spontanée qu'on voit dans le verset 21. L'Éternel parla à Moïse et dit. On voit vraiment la question de l'initiative divine dans le salut. C'est une initiative divine, mais avec des ordres très précis. Deuxième chose qu'on voit, c'est qu'elle est universelle, son offre. Dans le verset 2, il dit « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. » La construction du tabernacle comprendra toutes les offrandes de tout le peuple d'Israël. On se souvient, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, le Seigneur a permis que le peuple d'Égypte leur donne de l'or, leur donne des richesses. Et ce sont la plupart de ces choses-là que le Seigneur a utilisées pour construire le temple. Ça aussi, c'est symbolique. Et c'était très généreux. Si on va un petit peu plus loin dans Exode 35, versets 21 à 29, là, on est dans la section où c'est le peuple d'Israël qui commençait à exécuter ce que le Seigneur demandait de construire. Je vais vous les lire. Quand on parle de généreux, pour qu'on fasse un tabernacle comme ça, avec tout l'or qu'il y avait là-dedans, les pierres précieuses qu'il y avait là-dedans, ça prenait de la richesse. Tout à l'heure, je partageais avec Rénal en bas, la quantité d'or qui avait été utilisée juste pour construire la maison d'or, tout ce qui était en or là-dedans, une tonne point cinq d'or. Alors, il fallut que les gens amènent beaucoup d'or pour qu'ils soient capables de fondre ça et de pouvoir construire ces choses-là. Et là, on voit que c'est généreux parce que le peuple, ici, on voit Dieu qui demande au peuple, mais dans Exode 35, on voit le peuple qui répond à ce que le Seigneur a demandé. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes, teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, les apportèrent. Voyez-vous, c'est le peuple qui a apporté ces choses-là. C'est l'Éternel qui l'avait commandé. Verset 24, « Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain, apportèrent l'offrande à l'Éternel, tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et en fin lin. Voyez-vous ici, on nous montre quelque chose, les femmes ont participé à faire le tissage des différentes portes qui avaient des choses si belles. C'est très symbolique. Je suis toujours renversé chaque fois que j'étudie ça. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé, qui avaient de l'habileté, filèrent le poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx, qui allaient sur les épaules, et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Voyez-vous, c'est important de réaliser que tout le matériel qui avait été demandé par Dieu avait été apporté par le peuple d'Israël lui-même. Et tout le monde a contribué. Je pense aussi, c'est symbolique. Donc, autre chose qu'il faut remarquer, c'est que c'est volontaire, verset 2. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Ici, c'est sûr que quand on dit homme, c'est de tout homme et de toute femme. Là. Homme dans le sens générique. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Fallait que le peuple fasse volontairement. Et je pense qu'on n'est pas sans faire un parallèle avec la question que quand Jésus est venu sur la terre pour accomplir la volonté de son Père, il l'a fait volontairement. On fait lire. Jean 6, versets 37 à 40. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Verset 2, autre caractéristique des offrandes du peuple, elle était joyeuse, de bon cœur. Quand tu fais quelque chose de bon cœur, tu le fais joyeusement. On va regarder le deuxième point, les différents matériaux que l'Éternel commandait à Moïse de rassembler. On peut remarquer que les choses que l'Éternel demandait au peuple d'Israël et à Moïse de rassembler, c'était des choses qui étaient les plus précieuses venant de trois règnes. Le règne végétal, le règne animal et le règne minéral. C'est très important de voir ces choses-là parce qu'autrement dit, l'Éternel est en train de nous montrer que ce que le peuple a amené pour construire le tabernacle, c'est ce qu'il y avait sur la terre de plus précieux. Le livre que j'ai montré tantôt à Rénal, que j'ai là, je vous invite à venir le voir après le culte. Ça s'appelle « Le sanctuaire de Dieu dans le désert ». C'est écrit par Paul K-I-E-N-E, je ne sais pas si King ou Kine, Paul King, qui écrit un livre en français sur le tabernacle qui est rempli d'illustrations couleurs. Alors, si quelqu'un veut faire une étude plus approfondie ou avoir gardé les images couleurs qui sont là-dedans, ça aide énormément à comprendre. Quand une personne veut faire une étude du tabernacle, lit un livre comme ça, c'est sûr qu'il va en ressortir gagnant, il va en ressortir béni, il va voir une multitude de choses. Donc, c'est un livre qui est disponible sur le site messagerchrétien.com. Si jamais vous désirez avoir les coordonnées, je vous les donnerai et vous pouvez le commander. Il est disponible sur Internet, ce livre-là. J'ai regardé hier et il est encore disponible. C'est des livres à garder pour que plus tard, si jamais vous voulez étudier les différentes choses, vous allez pouvoir les voir. Ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va regarder les 14 éléments et... Oups, j'ai pas emmené ma liste. Tu m'as emmené ma liste aussi? Je l'ai-tu? Excusez-moi. OK. Il y a 14 choses. On va commencer par nommer l'élément. Ensuite, on va regarder le symbolisme de l'élément. Et ensuite, on va regarder une illustration de qu'est-ce que le Seigneur voulait qu'on fasse avec cet or-là. Le premier, c'est l'or. Quand vous regarderez, il dit, verset 3, « Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. » Pourquoi il commence par l'or? L'or, c'est ce qui est le plus précieux pour les hommes. Depuis que l'homme existe, il court après l'or. Il veut de l'or. Même aujourd'hui, on est dans une région qui en produise de l'or. L'or est rendu qui vaut 1 600 $ l'once. Et ça en a pris 1,5 tonnes pour construire le tabernacle. Imaginez. Alors, dans la Bible, l'or, plus particulièrement l'or pur, est le plus précieux de tous les métaux présentés. L'or est mentionné environ 80 fois en relation avec l'offrande élevée. Pourquoi on appelait ça une offrande élevée? C'est parce que le peuple amenait l'or, puis c'est comme s'il disait, « Voici Seigneur, je t'offre ce que j'ai de plus précieux, l'or. » C'est l'offrande élevée. L'or pur, seulement 20 fois. Le poids de l'offrande tournoyée, qu'on appelle ce que le peuple a offert, là, c'était, dans l'ancienne mesure, ce qu'il appelait 29 talents et 730 cycles. Si vous prenez l'ensemble, là, c'était 29 talents et 730 cycles. C'est-à-dire près de 1,5 tonnes. 1,5 tonnes. C'est de l'or, ça. Si vous trouvez la référence de ça dans Exode 38, verset 24, vous avez la quantité d'or que le Seigneur... La fameuse question de 29 talents et 736. Quelles sont les caractéristiques de l'or? Il est d'une couleur inaltérable. Il réfléchit la lumière. Il est indestructible par le feu, l'eau ou l'air. Il est le plus lourd des métaux, à l'exception du platine. Il est malléable. Avec une once d'or, on peut faire un fil de 219 000 de long. Si tu le bats, tu peux produire 160 feuilles de 9 pouces carrés. Avec une once, tu peux produire 160 feuilles de 9 pouces carrés d'or. Que tu ferais juste souffler dessus, puis elle volerait. Tellement c'est rendu mince. Alors, ces feuilles seraient assez minces pour être soulevées par le moindre vent. Si on va du côté symbolique, alors on vient de voir différentes caractéristiques de l'or. Côté symbolique, c'est sûr que ça représente la sainteté et la gloire divine. Pourquoi le propitiatoire et l'arche étaient en or massif? C'est très certainement pour représenter la sainteté et la gloire divine, qui représentait le saint, le juste, celui qui est parfait, sa majesté et sa gloire. Peux-tu mettre la 19 aussi? Juste pour montrer, l'or, on l'a vu un petit peu tantôt, juste question de se renouveler un petit peu la mémoire. 19. C'est la 19?
Hein?
C'est-tu la 19?
C'est la
19. Bon, en tout cas. La 19, c'est sûr que...
Là, j'ai pesé dessus, je suis rendu à la prochaine, ça sera 20.
En tout cas, de toute façon, l'or, je pense que vous vous souvenez du propitiatoire, donc les deux anges qui se regardaient un vis-à-vis de l'autre. Le couvert était d'or massif et la base était aussi d'or massif et qui contenait, comme on a dit tantôt, la verge d'Aaron, la peau de manne et les deux tables de la loi. C'est très hautement significatif sur la personne même de Christ. Quand Christ est venu sur la terre à cause de sa résurrection, il est la manne, il est la nourriture pour les hommes, et il est aussi le fait que lui a accompli la loi à notre place. Alors la loi, pour lui, elle était bonne, sainte et agréable, et lui avait la capacité de l'accomplir à la perfection, parce qu'il n'était pas un homme pécheur, et n'étant pas pécheur, il pouvait le faire. Deuxième élément, c'est l'argent. Diapositive 22. Bon, voyez-vous la base, là?
Oui, je vais aller prendre mon petit...
La base ici, là, les bases, sont ici. Alors ça allait en terre, les bases, il fallait que ce soit en argent. Le deuxième métal noble, l'argent, est mentionné 22 fois en relation avec la construction du sanctuaire de Dieu. Le poids total de l'argent employé est indiqué comme étant de 100 talents et 1775 cycles. Cela correspondait à 4,4 tonnes d'argent. Il y avait de l'argent là-dedans. Cet argent provenait de la rançon de tous les Israélites propres au service militaire qui étaient dénombrés, rançon que Dieu exigeait de chacun individuellement. On voit ça dans Exode 30, Exode 38. Il demandait que chaque croyant du peuple d'Israël amène un demi-sicle d'argent. Tu ne pouvais pas en emmener plus, puis tu ne pouvais pas en emmener moins. Il fallait que ce soit un demi-sicle chacun, soit 10 guéras, était demandé de chaque homme propre au service militaire. Tout adulte qui entrait au service de Dieu était appelé à donner 7 rançons. Il acquérait ainsi un mémorial au sanctuaire, car l'argent trouvait là son emploi. Dans la Bible, on trouve 14 mentions de l'argent de la propitiation. Alors, l'argent, ça représente le rachat, la réconciliation, la rédemption. C'est le rédempteur qui rachète et délivre celui qui fait la propitiation de nos péchés. L'airain, certaines versions vont dire bronze, mais de toute façon, je vous explique, diapositive 5 pour l'airain. Par airain, c'est pas la bonne, en tout cas, de toute façon, c'est pas grave. L'airain, c'était comme l'autel du sacrifice qu'on a vu qui était dans la partie avant d'entrer dans le sein. Par airain, il faut entendre le bronze, qui est un alliage de cuivre. Alors ici, on est dans la région du cuivre, on devrait savoir ce que c'est. L'airain de l'Antiquité provenait principalement de l'île de Chypre, d'où son nom Couprum. Ce métal extrêmement réfractaire au feu est nommé 35 fois en relation avec son utilisation pour le sanctuaire. Le poids de l'airain consacré à l'Éternel en tant qu'offrande tournoyée était de 70 talents et 2400 sicles, ce qui correspondait à quelque 3 tonnes. Ce métal important, dont étaient faits plusieurs des ustensiles du parfis, est connu pour son extraordinaire solidité. Sa résistance au feu est immense. Son point de fusion se situe à 1085 degrés centigrades et se trouve ainsi à être le plus élevé que celui de l'or qui se situe à 1065 degrés centigrades. Alors, c'est sûr que l'airain correspond à la capacité d'endurance de la colère de Dieu pour nos péchés sur la personne de Christ. Celui qui a été éprouvé, qui a souffert, qui a subi le jugement, celui qui a enduré l'ardeur de la colère de Dieu. Pas pour rien qu'il fallait qu'il mette la victime sur la grille et qu'il fallait absolument que la victime soit brûlée d'un bout à l'autre. C'est vraiment l'image du jugement de Dieu qui s'exerçait sur son Fils et il le faisait à notre place parce que lui, vu qu'il était sans péché, il n'avait pas à subir normalement pour sa propre personne un jugement. Le quatrième élément qui est mentionné, c'est les étoffes teintes en bleu. Ça, c'est la diapositive 3. Bon, en tout cas, je vais vous lire quand même le pourpre bleu. Les Hébreux se servaient de l'appellation tikelet pour désigner cette couleur. Ils entendaient par là un violet, certes foncé, mais lumineux. Le ciel en Orient présente de telles teintes. Cet ouvrage de fil tissé de la couleur du ciel était employé à la confection des rideaux et des tapis du sanctuaire. Le bleu est mentionné 39 fois à l'intérieur du texte. Donc, c'est vraiment l'origine céleste de Dieu, de l'envoyé de Dieu, du Christ, le Fils de Dieu dans son être et son origine céleste. Voyez-vous, ici, on le voit mal parce qu'on ne voit pas vraiment bien les couleurs, là. Mais tu as du blanc, tu as du rouge. Et tu as une différence entre l'écarlate et le cramoisi. C'est une valeur qu'on ne les voit pas très bien, mais quand même, ça donne une idée que ces quatre couleurs-là représentaient des choses. Les étoffes teintes en pourpre, donc ça c'est vraiment la couleur rouge. Il s'agit également de fils de couleur rouge foncé pour les ouvrages d'or et les ouvrages de brodeur. Les couleurs pourpres étaient tirées de la sécrétion d'une glande des mollusques à pourpre. Cette matière est mentionnée 27 fois. Donc, le pourpre, dans l'Ancien Testament, c'était une couleur qui était portée uniquement par les rois. Tu ne voyais pas du monde se promener dans la rue habillé en pourpre. C'était une couleur royale. Donc, on a vu l'origine céleste du bleu, la majesté royale, le fait que Jésus est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, les princes des rois de la terre. Le pourpre représentait cette couleur-là. les étoffes teintes en écarlate qui représentent le Messie qui est offert en sacrifice. L'écarlate a la couleur du sang artériel. Il est aussi connu sous le nom de cramoisi, mot perse, kermès qui signifie vert, vert V-E-R, et le terme hébreu désignant cette couleur signifie l'éclat du vert, V-E-R encore. On la tirait en effet des œufs d'un insecte, la cochenille kermès, appelée coccus ilicis ou coccinos, dont la femelle pleine d'œufs adhère au feuillage du chêne. Les vers en étaient autrefois séchés et pulvérisés, et la poudre ainsi obtenue donnait le colorant rouge pour les tentures des fils. Le cordon que Rahab devait attacher à la fenêtre pour son salut, dans Josué 2,18, devait être écarlate vif, donc couleur du sang. L'écarlate est nommée 27 fois en tant qu'élément de l'offrande élevée. Donc l'écarlate, c'est le symbolisme du Messie offert en sacrifice. Le fameux fin lin, ça couvrait soit le sacrificateur, la robe blanche qu'il avait en dessous de ses vêtements du pectoral, ou le fin lin, c'était les murs qui entouraient le parvis. Quand on l'avait regardé le parvis, là, diapositive 2, voyez-vous, le fin lin, là, il y en avait ici. Là. Ça, c'est tout, ça tout blanc immaculé. Ça, c'était du fin lin, du coton très fin. Et, je vais vous donner certaines caractéristiques de ce coton-là. Pour l'époque, c'est renversant de savoir que ça pouvait exister. Le fin coton est le septième élément de l'offrande élevée. Le mot hébreu est « shesh ». Du fait de sa couleur, il est appelé « bus » en araméen, duquel le nom grec « bizos » est probablement tiré. L'égyptologue Wilkinson a trouvé dans les tombes des pharaons du byssus et en a compté les fils pour constater la finesse du tissage. Sur un pouce carré, 25,4 mm, il a trouvé 152 fils de chaîne et 71 fils de trame. Les tissages de coton les plus fins réalisés aujourd'hui avec les moyens techniques les meilleurs ne présentent en contraste que 86 fils au pouce. Quand vous allez vous acheter des draps, là, vous allez avoir le nombre de fils au pouce. Moderne, avec les moyens modernes qu'on a, on fait, pour les choses de qualité, du coton, 86 fils au pouce. Et ici, on avait 152 fils de chaîne, 71 de trame. C'était un coton d'une qualité, d'une finesse, d'une blancheur éclatante. Alors, pour faire quelque chose avec les moyens de l'époque, d'aussi, ça prenait quelque chose, il fallait que les femmes aient les mains extrêmement délicates, parce que tisser des fils de cette grosseur-là, là, puis on n'a pas, il n'y avait pas l'équipement qu'on a aujourd'hui. Alors, cela fait ressortir la finesse et la valeur considérable des tissages de fin coton. Et cela est représenté environ 36 fois. La blancheur, ça représente toujours la sainteté ou l'impeccabilité de Christ. Alors, c'est pas pour rien qu'il y avait une porte et tu ne pouvais pas entrer dans l'enceinte du parvis. Tout était blanc autour. Les tentes, en contraste, étaient gris foncé ou noir. Alors, c'est pour montrer que le peuple autour était pécheur et que pour rentrer là, tu avais de la blancheur, tu avais de la sainteté. Et on connaît la doctrine de l'impeccabilité de Christ. Donc, Christ n'a jamais péché, ni en pensée, ni en parole, ni en action, ni en omission. Parfaite obéissance au Père en tout temps, durant tout le temps de sa vie. Et ça, ça représente la couleur blanche. Et on va voir au cours des prochaines leçons que ça revient souvent, le blanc. Et ça faisait partie des vêtements du souverain sacrificateur. Pourquoi le souverain sacrificateur portait un vêtement? Le premier vêtement qu'il portait devait être blanc. Sûrement pas un hasard. Le poil de chèvre filé, le huitième élément, diapositive 11. Les poils de chèvre à long poil sont très nombreuses en Orient. Elles cherchent souvent leur nourriture dans les buissons épineux du désert. Le poil de chèvre qui est resté accroché aux épines peut être recueilli même par des enfants. L'offrande élevée pour la confection des tapis de la tente consistait en poils de chèvre filés. Il est mentionné 6 fois. Diapositive 11. Voyez-vous, on le voit, le chef de... Ici, ça représente le témoin fidèle et véritable, le prophète de Dieu dans son abaissement et dans sa pauvreté. Là, on voit ici, là, ce qui était sur le dessus, c'était du poil de chèvre tissé. Et on va les voir en détail quand on va arriver là-dessus. Là, c'est juste pour vous donner une idée en général. Diapositive 10, les peaux de bélier. Les peaux de bélier étaient teintes en rouge. Elles formaient la deuxième couverture du sanctuaire et sont également nommées 6 fois. En Genèse 22, verset 13, le bélier fut la victime qui mourut à la place d'Isaac. Le bélier était aussi l'animal qui était offert à Dieu lors de la consécration des sacrificateurs dans Exode 29. On est là? Oui. On a la couverture. La deuxième, on avait les poils de chèvre. En la deuxième, on avait les peaux de bélier. Alors, chiffre, ici, on a Christ qui est chef et protecteur de son troupeau. Consécration et don de lui-même jusque dans la mort. Alors, vraiment, l'image du rouge du sang. Et, diapositive 9, les peaux de dauphin. Alors, on voit à l'extérieur des peaux de dauphin. Je vais vous lire ce que l'auteur mentionne là-dessus. Le mot hébreu « ta'ach » est un mot dont le sens n'a pas été entièrement élucidé. Darby traduit « tesson », c'est-à-dire « blaireau ». On a supposé que « ta'ach » est dérivé de l'arabe « tuhas », marsouin, ou de « tukhas », dauphin. L'alikore kempriki, ça c'est des noms scientifiques, qui est appelé aussi dugong dans l'Orient, est en effet commun dans la mer Rouge. Donc, cette sorte de dauphin-là, pour faire les peaux de ça, c'était commun dans la mer Rouge. Sa peau peut très bien avoir servi à confectionner la couverture extérieure du tabernacle. Le dugong mesure 3 mètres à 3 mètres 50 de long. Il a la tête ronde, il est pourvu de mamelles et d'une nageoire caudale, son dos est couvert d'ardoises et son ventre blanc. Alors, les peaux de dauphin, si on regarde l'extérieur, le sol, c'est pas quelque chose qui plaît à la vue, c'est pas quelque chose de beau. C'était l'image de ce que les gens voyaient quand ils ont vu Christ. Combien il y a eu d'apôtres qui ont reconnu la divinité de Christ lors de sa venue sur la terre? Il y a eu Pierre qui a eu un petit éclair de génie à un moment donné de tuer le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais ça les a pris énormément de temps, même ceux qui ont vécu avec lui 3 ans, de reconnaître qui il était véritablement. Donc, son apparence, comme ça dit dans Ésaïe 53, n'avait rien pour attirer le regard. Les peaux de tesson ou les peaux de dauphin, c'est pas vraiment quelque chose de très extraordinaire vu de l'extérieur. Si on les compare au premier rideau, quand on a vu les anges avec les couleurs, c'est pas vraiment très attrayant. Et ça représentait l'humanité de Christ qui, perçue par les hommes, voyait pas ce qu'il y avait de précieux à l'intérieur, qui était sa divinité. Alors, les peaux de dauphin, c'est vraiment celui qui est mis à part, solitaire, et qui veille sur la gloire de Dieu. Diapositive 22, le bois d'acacia. Le bois d'acacia ou bois de sittim est un arbre de la famille des mimosacées. Son bois est plus foncé et plus dur que celui du chêne et se révèle très résistant. Ça, c'est intéressant de voir plus dur que du chêne. Je ne sais pas si vous avez quand vous voyez dans un magasin, vous voulez vous acheter des meubles en chêne, c'est du solide. C'est pas du bois mou, on dit. Et ça se révèle très résistant. C'est ainsi qu'il est épargné par les insectes qui s'attaquent au bois. Dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, qui est les Septante, le bois de sittim est rendu très justement par « bois incorruptible ». Voyez-vous, les Juifs, quand ils ont traduit le mot « bois d'acacia », dans la Septante, ils l'ont traduit par « bois incorruptible ». Qu'est-ce qui était en bois quand Jésus-Christ est venu? La croix. La croix était en bois incorruptible. Et un bois qui ne pouvait pas être attaqué ni mangé par les insectes. C'était, le Seigneur a choisi le bois d'acacia et ça a rentré dans la composition de différentes choses. On va les regarder en détail quand on va regarder chacun des choses en détail. Mais on va voir qu'il y a beaucoup d'intelligence à l'intérieur de ça. 12e élément, diapositive 27. Il s'agit de l'huile d'olive mûre, dans Lévitique 24, verset 2. Les olives étaient délicatement pilées dans un mortier. Les premières gouttes étaient d'une qualité particulièrement pure. Elles servaient de combustible aux sept lampes du chandelier d'or. Qu'est-ce qui faisait brûler, qui avait de la lumière sur les sept branches du chandelier? C'était de l'huile d'olive pure. L'huile d'olive, souvent, l'huile dans les Saintes Écritures représente souvent le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit qui faisait que les Écritures nous disent que quand Jésus est venu sur la terre, le Père ne lui avait pas donné le Saint-Esprit avec mesure. Alors, ça représente le Saint-Esprit dont Jésus a été oint par Dieu en même temps que de puissance. Diapositive 28, les aromates. Les aromates, il y avait deux choses qu'ils faisaient avec ça. Il y avait ce qu'il appelait l'huile d'onction, puis l'autre, le parfum odoriférant. L'huile d'onction, il y avait quatre aromates des plus excellents qui entraient dans la composition de l'huile d'onction. Quand on va arriver dans Exode 30, le Seigneur va donner la recette pour comment faire de l'huile d'onction. Exode 30, versets 22 à 25. Il y avait quatre choses à l'intérieur de ça. De la myrrhe. La myrrhe, c'est la sèvre d'un arbuste odoriférant. Elle s'écoule soit d'elle-même de l'écorce, soit pareille à des larmes d'une partie entaillée du tronc. Dans le Cantique des Cantiques, elle est comptée parmi les aromates les plus excellents. Il y avait de la cinnamone. La cinnamone, c'est l'écorce d'un très bel arbre aux feuilles d'un vert éclatant. Il y avait aussi du roseau aromatique. Elle est la moelle de couleur rose extraite de la racine du roseau et dont on tirait un parfum. Quatrième chose qui rentrait dans la composition de l'huile d'onction, la casse. Ça provenait des fleurs séchées du cinnamome. Elle était un des éléments des parfums de bonne odeur. On voit ça dans le psaume 45, verset 8. Alors, qu'est-ce que ça représentait? Ça représentait le fait que ces choses-là étaient un parfum de bonne odeur pour l'Éternel. C'était en avant de la porte qui ouvrait, qui séparait le Saint du Saint des Saints. Très symbolique, c'était la chose la plus avancée, la plus proche de l'Arche de l'Alliance. C'était l'image que c'est vraiment les prières de Christ qui étaient... Alors, c'est vraiment l'idée que de cet autel des parfums-là, la prière de Christ montait. Et ça, c'était quelque chose d'agréable odeur pour l'Éternel. Et quand on regarde les compositions, faire de l'huile de l'onction à ce moment-là, ça demandait énormément d'efforts, ça demandait énormément d'argent, puis c'était toutes des choses qui étaient extrêmement rares à cette époque-là. Il y avait aussi le parfum odoriférant, ou ce qu'il appelait l'encens composé. Ça comprenait aussi quatre drogues odoriférantes pour dans l'encens. Dans Exode 30, versets 34 à 38, le Seigneur leur donne le détail de comment ce parfum-là ça devait être composé et les Hébreux avaient pas le droit de faire ça pour leurs propres besoins. Alors, ça comprenait le stacte, qui était une poudre tirée du centre des gouttes durcies des buissons à myrrhe, une substance très rare et par conséquent extrêmement précieuse. La coquille odorante était recueillie dans la coquille d'une espèce de mollusque qui présente certaines analogies avec le mollusque à pourpre. Les plus beaux coquillages de cette sorte se trouvent dans les profondeurs de la mer Rouge. Il y avait du galbanum, qui est la résine produite par la sève laiteuse épaissie des racines des différentes espèces de férules. Cet ombellifère atteint 2 mètres de hauteur et croît en Syrie ou en Perse. Son parfum est âpre et ne devient agréable que lorsqu'il est mélangé aux autres drogues. Sans doute là, que quelqu'un qui ferait une étude encore plus approfondie. Voyez-vous, on fait juste voir un peu en détail. quand il irait voir pourquoi il a choisi telle plante, c'est sûrement rempli de très grandes richesses. L'encens, la résine transparente ou blanche de l'écorce d'un buisson qui porte le nom botanique de Boisswolia carteri. Cette résine était pulvérisée dans des mortiers et servait d'encens saint. Il était également mélangé à l'offrande de gâteau dans Lévitique 2.1. L'encens était mis sur des pains de proposition et brûlé à leur place, mais il ne devait jamais être utilisé pour le sacrifice pour le péché. Alors, le parfum odoriférant représente la joie dans le cœur du Père. Et là, on va voir les deux dernières, les deux derniers éléments. Le 14e élément, c'était les pierres précieuses. Diapositive 35 et 36, les deux dernières. Là, tu avais les pierres d'onyx. On avait dit tout à l'heure, les pierres d'onyx étaient sur les épaules. Alors, les deux pierres d'onyx étaient ici. Une là, une là. Moi, je pense que c'est probablement les saints de l'Ancien du Nouveau Testament. Et ensuite, tu avais les 12 pierres qui étaient ici sur le pectoral. Et quand on va étudier en profondeur l'habillement du souverain sacrificateur, on va voir, ça c'était le vêtement là, qui était en dessous, le blanc, le bleu, les couleurs. On va voir l'effort du pectoral, tout ce que ça symbolisait. Et ici à l'intérieur, en bas, là, les petits grelots, là, encore là, le Seigneur avait demandé ça voulait dire quelque chose de particulier. Alors les pierres précieuses, c'est très sûr que ça représente les élus de Dieu qui, aux yeux du Père, à cause de l'œuvre de Christ, sont... On sait que Jésus-Christ, dans le livre des Hébreux, est considéré comme le souverain sacrificateur. Il y avait le peuple sur ses épaules. On voit très bien le symbolisme. Et sur son cœur, les 12 tribus d'Israël ou les 12 apôtres. Et sûrement que, à quelque part, chacun des saints a une couleur particulière. Et encore là, ça serait une étude très intéressante quand on regarde les couleurs. Les couleurs, on sait que ça vient de trois choses. En anglais, ils disent RBG, Red, Blue and Green. C'est les trois couleurs fondamentales. Tu as trois couleurs qu'à partir desquelles, si tu les mélanges, ils forment n'importe quelle autre sorte de couleur. Tu as le rouge, le bleu puis le vert. Si tu les mélanges, ils vont finir par former les couleurs qui sont sur le pectoral. Je ne l'ai jamais fait, là, mais je suis sûr que quelqu'un qui se donnerait la peine d'étudier les différentes couleurs primaires et de voir les couleurs secondaires que ça l'a donné, ça doit sûrement avoir un symbolisme, une signification avec pourquoi le Seigneur avait choisi telle pierre qui avait telle couleur. Là, tu avais les deux pierres d'onyx pour l'éphod. On va voir dans Exode 28. C'était les pierres de mémorial qu'ils appelaient. L'assemblage des épaulières de l'éphod était remarquable. Deux grandes pierres précieuses enchâssées dans des chatons d'or portaient chacune gravée en gravure de cachet 6 noms des tribus du peuple d'Israël. Sur chacune des pierres, en haut, sur les épaules, il y avait 6 tribus d'Israël sur une pierre, 6 tribus des noms d'Israël gravés en gravure de cachet. On regardera ça en détail. C'était gravé sur les épaules. C'était vraiment qu'il portait son peuple sur ses épaules. La force de Christ qui faisait en sorte que son peuple était 6 noms des tribus du peuple. Par analogie, elles indiquent que l'assemblée rachetée au prix du sang ne sera jamais oubliée de Dieu. Tout croyant peut y voir un signe que le Père dans le ciel pense sans cesse à ses enfants. Porté sur les épaules du souverain sacrificateur, ça représente Christ portant les fardeaux et les âmes de son peuple devant Dieu. Les autres pierres, pour la garniture du pectoral, il y avait 12 pierres précieuses qui étaient destinées au pectoral du souverain sacrificateur. Elles étaient disposées sur 4 rangées de 3 pierres chacune. On voit très bien, 4 rangées de 3 pierres chacune. Leur ordre de gauche à droite, de haut en bas, était le suivant. La sardoine, qui était d'un rouge-brun, la topaze, qui était d'un jaune à jaune-rouge, l'émeraude, qui était vert clair, l'escarboucle, qui était grenat-rouge, le saphir, qui était bleu profond, le diamant, qui était un blanc étincelant, l'opale, qui est jaune lumineux, l'agate, qui est bleu tendre, l'améthyste, qui est violet, la chrysolite, qui est jaune-vert, l'onyx, qui est jaune clair, le jaspe, qui est cristallin. Alors, ces choses-là étaient sur le... Alors, vient même représenter que le peuple de Dieu est toujours sur le cœur de Christ. Et on, juste le fait de penser qu'on est toujours en mémoire à Dieu et qu'on est porté sur les épaules. Alors, porté sur le cœur, elle révèle le souci, la compassion et la sympathie de Christ envers ses élus. Juste une brève remarque. On discutait avec Rénal en bas. Est-ce qu'on est autorisé par les Saintes Écritures à utiliser les nombres, utiliser les couleurs, utiliser tout ce qu'il y a de symbolique là-dedans par les Saintes Écritures, ou si on délire, ou si on délire avec dans notre imagination? Voici ce que Paul Keen dit, je l'ai trouvé très intelligent, je l'ai noté, je vais vous dire ce qu'il dit. Dieu a consigné dans sa parole une quantité de mesures et de nombres en relation avec la construction et l'aménagement de son sanctuaire. Vous allez voir, quand on va voir les mesures de chacune de ces choses-là, non, on n'a pas touché à ça. Mais quand on va voir quand ils ont fait le parvis, ça prenait 50 colonnes, il fallait qu'il soit de telle hauteur, et tous les détails que le Seigneur a donnés, et quand on regarde le symbolisme des numéros, là, ça prend toute une autre dimension. Avec la construction et l'aménagement de son sanctuaire, ils ont été indiqués par Dieu comme instruction pour l'édification de l'ensemble. Sa sagesse trouve là une expression visible. Qu'une valeur symbolique soit attachée aux chiffres de la Bible est incontesté. Il y a beaucoup de volumes qui ont été écrits là-dessus. Qu'il y a une valeur symbolique des chiffres. Chaque fois qu'on voit des chiffres dans les Écritures, souvent le Seigneur veut véhiculer une idée particulière avec ça. Évaluer et utiliser avec sobriété et intelligence, en s'en tenant aux indications de la parole, elle est propre à agir d'une manière convaincante sur le cœur et sur la conscience et contribuer à l'enrichissement et à l'approfondissement de notre vie de foi. L'unité de mesure courante au temps de la construction du tabernacle était probablement l'ancienne coudée hébreu, correspondant à la coudée royale égyptienne, soit environ 52,5 cm. Alors, quand le Seigneur donne une mesure, ça représentait probablement un demi-mètre plus 2 cm. À peu près 1 mètre, c'est 39 pouces, ou à peu près, divisé par 2, 20 pouces, quelque chose comme ça, autour de 20 pouces, 18, entre 18 et 20 pouces. Alors ça, c'est important de réaliser ces choses-là. Puis la mesure de capacité, elle, qui était appelée l'EFA, avait une contenance d'environ 24 litres. Alors on voit que dans le développement des histoires de ça, le Seigneur disait une certaine quantité d'huile qui devait être faite était mesurée en EFA. Alors aujourd'hui, on peut savoir qu'un EFA, quand il leur demandait de faire un EFA des choses, c'était approximativement 24 litres. On va terminer avec les versets 8 et 9. Qui nous dit dans le verset 8 et 9, « Ils me feront un sanctuaire, donc l'endroit où Dieu se devait d'habiter, et j'habiterai au milieu d'eux. » Donc, il fallait qu'ils construisent, et après, Dieu viendrait habiter. Et quand on regarde le chapitre 40, quand ils ont eu complètement terminé de construire le tabernacle, là, ça dit qu'ils ont vu le feu. Ils ont vu la gloire de Dieu qui s'est manifestée, que ça devait être quelque chose de... Imaginez-vous la lumière que Dieu peut refléter quand Dieu venait dans son Saint des Saints et que tout était en or, la lumière que Dieu reflète, ça devait refléter pas à peu près. Alors, c'est vraiment un sanctuaire d'habitation. Christ sur la terre, Christ dans son Église. On sait que les Écritures dans le Nouveau Testament nous enseignent que Christ habite sur la terre, il a habité sur la terre et qu'il habite maintenant dans son Église, et que tout ça, ça devait être semblable au modèle. Il y a 7 endroits dans les Écritures où ça nous dit que le tabernacle, tel qu'on vient de le voir, se devait d'être construit selon des mesures très précises. Exode 25, verset 9, c'est pas long, on finit là-dessus. Exode 25, verset 9, « Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Moïse, quand il a fait construire ça, il avait vu le modèle, le Seigneur lui avait montré. Deuxième fois, Exode 25, verset 40, « regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Troisième fois, Exode 26, verset 30, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Cette fois, c'est un hasard, je ne penserai pas. Quatrième fois, Exode 27, verset 8, tu le feras creux avec des planches, il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Nombre 8, verset 4, cinquième fois, le chandelier était d'or battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs, il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Sixième fois, acte 7, verset 44, « Nos pères avaient fait au désert le tabernacle du témoignage. » Si c'est notre ami, celui qui s'est fait tirer des roches, là. Il s'appelait, là, déjà. Étienne, c'est ça. Étienne, dans le livre des Actes, qui raconte au peuple l'histoire, il rappelle au peuple l'histoire, il leur dit, « Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. » Quand on sait que c'est Dieu lui-même qui a voulu que ces choses-là soient faites comme ça, je pense qu'il faut s'arrêter, ça demande des efforts. On ne comprend pas le tabernacle sans faire un effort, quelque part, pour voir. Et septième fois, Hébreux 8, verset 5, là c'est le Nouveau Testament, « Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Et vous, les Écritures du Nouveau Testament nous autorisent à voir ça comme des choses qui pointaient vers Christ, qui représentaient un aspect ou l'autre de la personne ou de l'œuvre de Christ. Conclusion. Honorons Christ parce qu'il est l'offrande parfaite. Il est l'offrande spontanée, généreuse, volontaire et joyeuse. Exaltons Christ parce qu'il est une offrande aux multiples facettes. Et remercions Christ parce qu'il est l'offrande qui nous a réconciliés avec le Père. Que le Christ soit béni, loué et adoré à tout jamais. Amen.